France Culture.
Bien sûr, il avait promis à Douce qu'il ferait un gâteau aux pommes pour le dîner. Son ami Polycarpe était leur invité ce soir, et Polycarpe adorait le gâteau aux pommes. Mais...
Ah, bonjour, bonjour.
Voilà, rebonjour.
Ouh, pardon, je me tire un peu.
Ouais.
France Culture.
Vous arrivez de Bretagne, là ?
Ouais, j'ai pris le train ce matin.
Ah, merci. Et merci pour tout ce travail de choix et cette sélection.
C'est un peu particulier.
C'est génial.
Le book club.
Je me suis dit, oh,
ah, c'est super.
Parce que tout le monde fait semblant de lire Proust toute la journée. C'est pas vrai. Hein ?
À qui le dites-vous ?
Dans la bibliothèque de Rebecca, d'autres mères.
Alors, j'ai pris les bouquins quand même. Par contre, j'ai pas mis de post-it comme une idiote. Il y a des choses pas très faciles à lire. Après, je me suis dit, oh, on va s'amuser.
Mathilde Wagman.
Un bon nombre d'enfants sont en vacances ces jours-ci dans nos contrées. Peut-être certains d'entre eux trompent-ils l'ennui, le nez plongé dans des livres d'images, auprès ou non d'adultes avec qui éventuellement il et elle partagent ces lectures. Peut-être auront-ils la chance de croiser sur leur chemin un personnage qu'ils ne pourront pas ne pas avoir envie de caresser par pages interposées, tant son allure, sa texture et son regard sont doux. Ce personnage, c'est Jacominus Gainsborough, adorable lapin découvert il y a quelques années dans un album qui nous faisait traverser de sa naissance à sa mort les riches heures de son existence. Et ce lapin, on vous le doit, Rebecca d'Outremer, vous n'avez cessé depuis de nous narrer au crayon, à la gouache ou en papier découpé la fragilité de nos existences à travers la sienne, les accidents, la mélancolie parfois, mais surtout les formidables joies. Dans le tout premier album, une planche nous montrait Jacominus en jeune lapereau plongé dans la lecture de son livre préféré, à plat ventre, une patte avant délicatement posé sur l'ouvrage. Une image qui transmet, avec une intensité dont vous avez le secret, la sensation physique du bonheur qu'il y a à se faire avaler par un récit. On l'avait en tête, cette image, lorsqu'on vous a proposé de nous faire visiter votre bibliothèque. Merci infiniment d'avoir accepté. Bonjour et bienvenue à vous, Rebecca d'Outremer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Il y a 5 albums en tout qui mettent en scène ce personnage, Jacominus Gainsborough. Depuis le tout premier, Les riches heures de Jacominus Gainsborough, ils ont tous paru aux éditions Sarbacane. Le tout dernier, Jacomimi, dont on avait parlé ici même dans la chronique Lecture Jeunesse, était un album cartonné destiné aux tout petits. Et puis je signale aussi que Une chose formidable, l'album paru en 2024 une première fois, a reparu récemment avec un QR code qui permet d'entendre une version audio et musicale lue par vos soins. Tout ceci donc aux éditions Sarbacane et on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans cette émission. Le principe de cette série de portraits de bibliothèque, c'est de faire le portrait de nos invités sous la forme d'un portrait chinois. En gros, dis-moi à quoi ressemble ta bibliothèque, je te dirai qui tu es. Alors parfois, on s'invite carrément littéralement chez nos invités. Aujourd'hui, on est dans un studio à Radio France. Mais pour commencer, je voudrais un peu qu'on fasse comme si on était chez vous, Rebecca d'Outremer. Est-ce que vous pouvez nous décrire très concrètement à quoi ça ressemble les livres chez vous ? Est-ce qu'ils sont bien rangés dans plusieurs grandes bibliothèques ou pas du tout ? À quoi ça ressemble ?
Alors, dans mes projets les plus fous, oui, ils sont magnifiquement bien rangés dans une future magnifique bibliothèque qu'il y aura dans mon bureau. Mais pour l'heure et depuis quelques mois, voire 2-3 ans, ils sont en partie encore dans des cartons, sous les lits, sous les tables, dans tous les recoins de la maison dans laquelle je me suis installée il y a 2-3 ans en Bretagne. Et donc j'en sors, en dépit du bon sens, il y a un fouillis épouvantable et c'est vrai que c'est... Le principal contenu des cartons, ce sont des livres.
Mais ça veut dire qu'il y a une bibliothèque de fait en construction ? Vous avez, c'est un projet qui est enclenché dans les faits ou qui va se faire très prochainement ?
Alors oui, ça va se faire. D'abord, je suis installée donc depuis quelques années, enfin depuis 3 ans maintenant, dans une vieille maison dans les Côtes d'Armor où on a récupéré notamment des vieilles bibliothèques avec des portes vitrées, le verre plein de petites bulles très jolies. Donc on doit rénover tout ça. Et puis je rêve maintenant que j'ai un beau bureau, un bel atelier pour travailler, de demander à mon papa qui était charpentier et qui me fait beaucoup de choses dans la maison, de me faire enfin ma bibliothèque qui monte jusqu'au plafond, dans le dos de mon bureau. Et ça, j'en rêve depuis longtemps. Et oui, ça va se faire. Ça se fait petit à petit.
Et alors, une fois que les livres seront sortis de leur carton dans cette merveilleuse bibliothèque prochaine, si on se mettait devant ce meuble donc en construction à venir, qu'est-ce qu'on y verrait ? Comment vous les organiseriez ? Et face à quel type de livres on serait ?
Alors c'est vrai que dans ma bibliothèque à moi, personnellement, dans mon, ce que j'appelle mon atelier, qui était un bureau, et qui est une pièce très lumineuse qui donne sur le jardin, j'ai de la chance, c'est sur de beaux arbres, je reconnais que j'ai aussi beaucoup de livres qui me portent dans mon travail, et notamment livres d'images tout confondus, et notamment beaucoup de livres de photographie. Qui sont vraiment les livres et qui m'ont beaucoup nourrie. Ben, au début de ma carrière, quand on ne pouvait même pas aller chercher les choses sur le réseau. Donc il y a une grosse partie de beaux livres d'images, beaux livres de photos. Peut-être moins de littérature où j'irais mettre ça dans une autre bibliothèque, plutôt dans les chambres. Voilà. Et puis il y a mes livres à moi aussi, puisque j'en fais, et qui sont là, qui marquent un peu mon travail et le temps de passer sur ces livres-là. Et le livre des autres auteurs de livres illustrés, des auteurs de bandes dessinées et beaucoup de références de ce genre-là, et puis des livres de peinture. Voilà, donc ce sont beaucoup de livres d'images pour ce qui est ma bibliothèque perso et de travail un peu.
Lorsque je vous entends, là, ça me fait penser à une question que je voulais vous poser. On devine en lisant vos albums et en se plongeant dans la contemplation de vos images, qui sont des images extraordinairement travaillées, avec une finesse du dessin et de la peinture extrêmement singulière, extrêmement savoureuse. On n'est pas surpris de vous entendre dire qu'il y a tout un travail de recherche, voilà, que vous vous plongez dans vous-même la contemplation d'autres images pour nourrir ce travail, mais il y a aussi des textes dans vos albums, et ces textes sont eux aussi extrêmement fins, extrêmement tissés, extrêmement travaillés, extrêmement savoureux. Est-ce que vous lisez aussi des textes pour nourrir l'écriture de vos propres mots ?
Alors oui, bien sûr, je lis quand le travail me le permet, me laisse un petit peu de temps. Et je dois dire que j'écoute aussi énormément de livres en audio. Et depuis quelques années que j'ai découvert ça, ça m'a un peu sauvé la vie, puisque je passe énormément de temps à faire ces fameuses images, puisque je travaille encore à la main sur papier. Ça me demande un temps fou. Et là, par exemple, je suis en train de travailler sur un projet très long où je travaille 7 jours sur 7. Enfin, j'ai pas beaucoup de loisirs de faire autre chose pour le moment. Et grâce aux livres audio, je peux continuer à découvrir des livres, écouter des livres très très longs, même très très ennuyeux. Il n'y a pas de limite de temps, puisque j'ai toute la journée pour entendre ça. Quand je fais de la couleur, pas quand je dessine, parce que là, j'ai pas le cerveau disponible. Mais ça m'a permis, voilà, d'écouter, de réécouter, sans limite, sans avoir l'impression de, voilà, d'avoir à faire des choix, parce que j'ai pas le temps. Ça a été génial, quoi.
Vous avez des souvenirs en particulier de certains livres entendus sous forme d'audio-livres qui vous ont particulièrement emporté?
J'en ai plein. Et ce qui est drôle, c'est que à chaque fois que j'écoute un livre et que je fais moi-même mon travail, j'associe toutes mes peintures à une certaine histoire, et des fois ça n'a rien à voir. Et quand je reviens, je rouvre la page du livre, je vais me remémorer par exemple que tiens, j'étais en train d'écouter, alors je cite toujours Salammbô de Flaubert, que j'aurais jamais lu très spontanément, je dois dire, parce que j'ai pas mis 600 ou 700 pages,
ouais, c'est un gros livre,
de guerre punique avec des éléphants de combat qui créent des images incroyables. Je me souviens de ça, c'était très très fort. Et j'associe ça peut-être à un petit lapin en train de se balader dans la forêt qui n'a rien à voir. Et j'aime bien ce contraste, c'est assez rigolo, ces mondes qui se rencontrent. Ça marque beaucoup mon temps de travail, quoi.
Vous sauriez dire qu'est-ce que ça change d'écouter un livre par rapport au fait de l'avoir lu ? Parce que moi, je me souviens, quand j'étais au lycée, j'avais une professeure de lettres qui était par ailleurs une professeure géniale, mais je me souviens une fois l'avoir entendue faire un commentaire assez méprisant sur les livres à écouter. Elle trouvait que c'était vraiment pas quelque chose qu'il fallait faire, qu'il fallait lire dans le silence de la lecture solitaire. Alors, on pourrait discuter de ça. Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant là-dedans ?
Alors, c'est une réflexion qui m'est revenue, notamment des écrivains qui disent « Non, tu n'as pas lu ce livre, puisque tu l'as écouté. » Alors, je ne suis pas d'accord du tout. C'est vrai que c'est très différent. Il n'y a pas l'effort de la lecture qui demande une attention, et j'imagine qui active une partie du cerveau très particulière. Mais en revanche, quand vous écoutez un livre, le temps de lecture, comme il est parlé, il est beaucoup plus long. Vous écoutez beaucoup moins vite que ce que vous ne lisez. Et je pense être beaucoup plus dans l'écriture et le mot en écoutant qu'en lisant. Et je retiens bien mieux le vocabulaire, etc. Le gros défaut de la lecture audio, mais ça peut être aussi sa qualité, c'est l'interprétation du lecteur, qui peut partir absolument dans tous les sens. Je constate que les lectures que je préfère, c'est les lectures qui ne sont pas jouées. C'est peut-être pas ce qu'on va faire là aujourd'hui, parce que c'est drôle aussi de les jouer. Mais quand le comédien se prend ou va jouer les personnages, en fait, il donne une interprétation qui est trop marquée, qui est trop personnelle et qui va gêner la liberté de celui qui écoute. Et j'ai écouté beaucoup de livres audio lus par des non-professionnels, c'est-à-dire lus assez mal sur des sites audio de bénévoles qui lisent comme ça, notamment pour les gens qui ne peuvent pas lire, des vieilles personnes qui ne voient pas bien. Et ces lectures très mauvaises, du point de vue d'interprétation, sont presque celles qui m'ont le plus marquée, parce que là, l'interprétation ne comptait pas. Et j'avais l'impression d'un ami ou d'une vieille grand-mère qui venait me faire la lecture par pure gentillesse. Et donc, il y a une espèce de lien avec le lecteur sans être gêné par son choix de diction. Donc, c'est très spécial d'écouter un livre audio.
Si je remonte un peu, là, on parle de votre manière de lire ou d'écouter les livres aujourd'hui. Je voudrais qu'on remonte un peu vers vos premières années. Est-ce que la lecture, c'est quelque chose qui a fait partie de votre vie très tôt? Est-ce qu'il y avait des livres chez vous dans l'enfance? Est-ce qu'on vous lisait des livres quand vous étiez petite, Rebecca d'Outremer?
Alors oui, énormément. Alors bon, ayant une enfance dans les années 70, comme je me permets de le rappeler pour les plus jeunes, il n'y avait pas d'écran, pas de télé, pas de téléphone, pas d'iPad, pas de jeux vidéo, rien du tout. Moyennant quoi, un temps infini pour faire autre chose, y compris s'ennuyer, ce qui était pas mal. Et oui, pour lire des livres, et j'avais la chance de façon très classique, que ma grand-mère me lisait beaucoup de livres, mes frères et moi, et ma maman aussi, quand elle en avait le temps. Et c'était délicieux, et ma grand-mère, qui était très dévouée, le faisait volontiers, ou peut-être un peu moins volontiers, mais on la tannait tellement qu'elle le faisait. Et c'était un moment de plaisir incroyable, quoi. Et je l'oublierai jamais, et j'en parle encore, notamment dans le spectacle que je fais, là, qui s'appelle La conférence ébouriffée. J'évoque ces moments-là de lecture avec ma grand-mère.
Il y a des titres qui vous restent comme ça, qui ressortent, qui ont marqué la mémoire au point de pouvoir vous en souvenir
aujourd'hui. Vraiment, quand on en parle avec mes frères, ma grand-mère nous disait les Sylvains et Sylvette. Alors, je ne suis pas de l'époque des Sylvains et Sylvette, il ne faut quand même pas exagérer. Mais à l'époque, on avait beaucoup moins de... Voilà, mes parents n'avaient pas non plus des moyens incroyables. Donc, on avait les livres qui étaient déjà dans la maison et qui dataient déjà peut-être de la jeunesse de mes propres parents, peut-être même de ma grand-mère aussi. Et elle nous lisait des trucs extrêmement classiques. On lisait les collections roses de la comtesse de Ségur, avec les couvertures en tissu toutes déchirées, qui sentaient vraiment la poussière et la vieille maison humide. Les Sylvains et Sylvettes qui étaient complètement éclatés. Les feuilles étaient déchirées, scotchées, rescotchées. Je me rappelle d'un truc qui s'appelait les Contes de la fée joyeuse. Et c'était des contes très classiques que j'adorais.
C'était pas tant des livres illustrés?
Ah ben, la Sylvain Sylvette, c'est de la bande dessinée, et il y avait peu de choses illustrées, mais les bibliothèques roses, par exemple, des comtesses de Ségur, il y avait, et ça m'a beaucoup marqué, les illustrations qui étaient des gravures, alors je ne saurais plus vous dire l'illustrateur, mais qui étaient vraiment des gravures à la Gustave Doré, et que je connais par cœur, et que j'ai observé en détail, avec toutes ces lumières un peu en clair-obscur, très noires, des bois très sombres, très touffus, j'adorais ça, c'est sûr que ça m'a poussée à aimer le dessin aussi.
J'ai lu que votre mère était bibliothécaire de profession. Est-ce que ça a joué un rôle d'une façon ou d'une autre dans votre rapport au livre ou dans l'accès au livre quand vous étiez...
Alors certainement, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais elle s'occupait d'une bibliothèque pour tous. Elle a eu la direction pendant plusieurs dizaines d'années, je crois. Et tous les samedis, il y avait une permanence le samedi, le jour du marché, dans la ville de Gap où on vivait. Et on la rejoignait après l'école à la bibliothèque, on choisissait nos livres, nos BD. Et elle ne se privait pas du tout de nous fournir, de nous faire lire des livres et des romans. Et pendant mon adolescence, c'est elle qui m'a proposé beaucoup de lectures. Oui, ça, évidemment, c'est elle qui a fait mes lectures, quoi.
Et justement, dans ce moment, à l'adolescence, où on quitte pour de bon la lecture qui nous est adressée, la lecture par votre grand-mère ou par les adultes qui nous entourent, est-ce qu'il y a eu des livres qui ont particulièrement compté à ce moment-là? Est-ce que vous avez été une adolescente très grande lectrice déjà ou pas du tout?
Il me semble que oui, mais c'est vrai que j'ai pas tous les souvenirs, je serais pas mesurée à quel point. Mais alors, il y a quelque chose qui me paraît très curieux aujourd'hui, c'est que je me souviens, vers 13-14 ans, j'avais entrepris de lire tous les Rougon-Macquart de Zola, et je trouvais ça passionnant, mais romantique à souhait, j'adorais ça, je les ai tous lus, et je les ai repris, justement, récemment, notamment en livre audio, mais il y en a qui sont, mais royalement ennuyeux, c'est illisible. Enfin, est-ce que je sais pas si quelqu'un se souvient d'avoir lu La Faute de l'abbé Mouret, je vois pas en quoi ça peut toucher une adolescente de 14 ans, mais je sais que j'avais lu ça, mais complètement émerveillée, et j'étais passionnée par ça, je les ai tous lus. Et je me souviens aussi d'avoir relu, je le mentionne parce que je l'ai illustré après, et c'est grâce à mes lectures d'ado que j'y ai pensé, les Steinbeck notamment, Les souris et les hommes.
Les souris et les hommes, dont vous avez fait une monumentale version illustrée, un très gros livre, très beau livre, qui est paru il y a quelques années aux éditions Tichina.
C'est ça. Et ce livre-là, par exemple, je l'ai lu au moins 15 fois quand j'étais ado, et je pleurais, et je repleurais.
Qu'est-ce que vous y trouviez particulier ?
Je n'ai pas souvenir d'avoir compris l'enjeu politique et la compréhension de ce qui pouvait se passer aux États-Unis dans les années 20. Je doute que ça m'ait touché, ça. Mais voilà, cette histoire d'amitié qui finit tragiquement. Et puis, ouais, tous les livres de Steinbeck, je me souviens les avoir lus et relus plusieurs fois. J'y revenais beaucoup. Et voilà.
On va aller vers les choix que vous avez faits pour cette émission. On vous a demandé d'extraire de votre bibliothèque 5 livres dont vous allez nous lire des extraits. Et pour nous y emmener, je vous propose qu'on écoute cette chanson. Elle est signée et interprétée par la chanteuse napolitaine La Niña. Nous avons donc demandé de choisir 5 livres chéris entre tous Rebecca d'Outremer ou dont vous auriez simplement envie de partager une lecture avec nous. Aujourd'hui, un petit mot en préambule, est-ce que ça a été un choix difficile ? Qu'est-ce qui a présidé à votre sélection ?
Écoutez, j'ai essayé de ne pas tricher, de prendre vraiment ce qu'il y avait autour de moi. Et puis c'est vrai qu'il y a des livres qui reviennent toujours, c'est pas la première fois qu'on me demande de faire la biblio idéale. Donc certains sont vraiment de cette série-là, des livres qui m'ont fascinée et que j'ai acheté 50 fois pour offrir. Et puis des livres qui étaient vraiment sur ma table de chevet et ou dans mon dos. Voilà, donc j'ai fonctionné comme ça.
Donc sans tricher, on va commencer par évoquer l'un de ces choix. Il s'agit du livre de Hélène Keller, qui dans sa version française s'appelle « Sourde, muette, aveugle, histoire de ma vie ». Il a paru pour la première fois aux États-Unis en 1903, en 1915 en France. C'est un récit qui raconte, comme son titre l'indique, l'histoire vraie, sous forme autobiographique, de la vie de son autrice. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ? D'abord, ou commencez d'abord par nous lire le texte ?
Non, je peux vous en parler. Alors, je ne voudrais pas faire la personne qui parle super bien anglais, mais j'ai écouté ce livre en anglais pour essayer de pratiquer comme je peux. Et ce livre m'a fascinée. Je me souvenais de la lecture que j'avais eue enfant, des albums. C'était un parcours et un personnage dont on parlait souvent. Il y avait des versions illustrées. Donc je connaissais déjà le personnage. Et là, j'ai découvert la biographie il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quelques années. Et l'appréhension, notamment dans les premiers chapitres, de cette femme qui ne voit pas, qui n'entend pas, son appréhension du monde, de la nature. Et Alors, on est tenté de dire du bruit. Ça, non, il n'y a pas de bruit, mais par le toucher, par l'odeur et ça, la poésie qui se dégage de ces descriptions de la neige, du printemps, de la floraison du printemps, etc. C'est extraordinaire. Et moi qui suis dans la vue, dans la vision, dans l'image, je trouve que cette personne en voit mille fois plus que moi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a fascinée. Et puis, elle parle aussi de l'apprentissage du langage. Et ça, c'est l'extrait que je voulais vous lire et qui est vraiment très, très touchant et très émouvant.
J'ajoute juste un petit mot. Donc Hélène Keller, elle était née en 1880, elle est morte en 1968 et c'est en raison d'une maladie contractée dans son tout jeune âge qu'elle a perdu donc à la fois la vue et l'ouïe. Et dans ce livre, elle raconte en effet comment grâce à l'aide d'une éducatrice qui l'accompagne, qui s'appelait Anne Sullivan, elle a finalement pu communiquer avec son entourage. On vous écoute, Rebecca D'Autremer.
Nous descendîmes le sentier qui menait au puits, attirés par le parfum épandu dans l'air ambiant par le chèvrefeuille qui formait un dôme au-dessus du puits. Quelqu'un était précisément occupé à tirer de l'eau, et mon institutrice me plaça la main sous le jet du seau qu'on vidait. Tandis que je goûtais la sensation de cette eau fraîche, Miss Sullivan traça dans ma main, restée libre, le mot « eau », d'abord lentement, puis plus vite. Je restais immobile, toute mon attention concentrée sur les mouvements de ses doigts. Soudain, il me vint un souvenir imprécis, comme de quelque chose depuis longtemps oublié, et d'un seul coup, le mystère du langage me fut révélé. Je savais maintenant que « E-A-U » désignait ce quelque chose de frais qui coulait sur ma main. Ce mot avait une vie, il faisait la lumière dans mon esprit qu'il libérait en l'emplissant de joie et d'espérance. Il me restait encore bien des obstacles à franchir, il est vrai, mais j'étais pénétrée de cette conviction qu'avec le temps, j'y parviendrais. J'appris ce même jour beaucoup de mots nouveaux. Je ne me les rappelle pas tous, mais il y avait entre autres les mots « mère »,« père », »,« sœur », »,« institutrice », mots qui me pénétraient de sentiments très doux, inconnus jusque-là. Il eût été difficile de trouver une enfant plus heureuse que moi quand, en m'étendant dans mon petit lit le soir de cette mémorable journée, je récapitulais les joies qu'elle m'avait données. Quelque chose qui ne m'était pas encore arrivé, je m'endormis impatiente du lendemain.
Un extrait d'Histoire de ma vie d'Hélène Keller dans la traduction vers le français signée Antoinette Huzard. Le texte est disponible aujourd'hui aux éditions Payot. Tout ceci lu par vous, Rebecca D'Autremer. Il y a quelque chose de très émouvant dans ce texte et dans sa construction qui est cette phrase finale. Pour la première fois, je m'endormais impatiente du lendemain et cette impatience naît de l'accession à cette chose fascinante, si l'on y songe et que ce texte nous fait réaliser, qui est le langage.
C'est ça qui m'a fascinée, quelque chose auquel on ne pense pas quand on a appris ça tout petit. Un peu plus loin dans les pages, elle explique aussi que ça lui a donné accès aux sentiments, tout simplement. Elle explique comment c'était une petite fille qui était pleine de colère, pleine de frustration, en fait. Elle avait toutes les capacités pour exprimer ce qu'elle pouvait, mais elle n'avait pas les outils. Et quand elle a eu accès aux outils, elle explique comment elle a accès à l'amour, au regret, au sentiment de la vie, quoi. Et que sans les mots, on est dans une cage enfermée. Et bien, d'où l'importance de les connaître, de les maîtriser, de les pratiquer, et de les partager et peut-être même de les lire.
Comme l'histoire de Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron ou d'autres histoires de cet ordre, on pense aussi, ces récits, ils offrent aussi une formidable réflexion sur ce qu'est l'enfance aussi de façon générale. C'est-à-dire que l'enfant petit d'homme ne naît pas avec le langage et du coup, imaginer ce que ressent un être qui est privé du langage, c'est aussi d'une certaine façon réfléchir à ce qu'est la petite enfance.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, mais de façon générale, un individu qui est privé du langage pour X raisons, on peut penser quand même que, il est dans une camisole, quoi. Enfin, c'est terrible et on peut le ressentir même si on le maîtrise un peu. Plus on le sait, plus on le pratique et plus on le lit, plus on se libère, sans doute. Enfin.
Le deuxième choix que vous avez voulu évoquer avec nous est un roman d'un auteur français. Je vous propose qu'on écoute d'abord sa voix. Je ne vous dis pas de qui il s'agit. Vous allez le reconnaître, vous, Rebecca d'Outremer, mais peut-être que certains de nos auditeurs et nos auditrices vont pouvoir jouer à deviner aussi de qui il s'agit. On l'écoute.
Quand j'écris une pièce, je ne pense pas au spectateur. Je l'écris pour moi. J'écris comme les romans d'ailleurs. Je les écris pour moi.
Et les contes du chat perché?
Pour moi aussi. Tout pour moi.
Ah oui? Vous donneriez l'impression d'être un grand égoïste si on ne vous connaissait pas si bien, et votre générosité et votre tendresse au fond, car vous êtes un tendre sous la satire féroce. Comment écrivez-vous? À la machine à écrire ou...
Non, j'écris avec une pointe bique.
C'est là que vous écrivez, à ce fauteuil?
Oui.
Et à ce bureau?
Oui.
Et est-ce qu'elle est loin, la plume?
La plume, elle est dans le tiroir. Oui.
Mais je me souviens que vous écriviez dans un cahier d'écolier, un petit cahier à couverture luisante, noire.
Non, c'est pas un cahier noir, c'est un cahier vert.
Ah, vous avez changé. Oui. Avec Ronsard dessus, symbolique. Vous ne voudriez pas ouvrir une page pour qu'on voit?
Oh, si.
Oh! Quelle écriture fine, mais il n'y a presque pas de rature.
Non. Je réfléchis beaucoup. Avant d'écrire, je m'assieds à mon bureau. Je prends un cahier, vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure, par exemple. Je prends un porte-plume, puis j'attends que ça vienne.
Alors, je vous laisse le soin de révéler de qui il s'agit, pour ceux qui, celles qui ne l'auraient pas reconnu, Rebecca d'Outremer.
Alors, je ne connaissais pas sa voix, mais il semblerait que Marcel Aimé soit plus à l'aise avec un stylo bic qu'avec un micro.
Absolument, on apprend des choses, on apprendra des choses dans cette émission aujourd'hui. On l'entendait là dans une archive qui date de 1958, c'est tourné chez lui à Montmartre. C'est la journaliste Michel Tesser qui avait été tournée cette émission télévisée, diffusée à la télévision québécoise. Comment est-ce que vous avez rencontré son œuvre à Marcel Aimé? Vous avez aujourd'hui choisi d'évoquer avec nous un roman paru pour la première fois en 1943, un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle La Vouivre. Je ne sais pas si c'est par lui que vous l'avez découvert.
Non, moi, quand j'étais enfant, je lisais les contes bleus et les contes rouges du chat perché avec Delphine et Marinette. Je l'ai lu et relu et voilà, une lecture qui m'a marquée et qui me plaisait beaucoup. Et qui me parlait, parce qu'il s'agit de campagne, il s'agit d'animaux. Alors, je n'ai pas vécu proprement parlé dans la campagne, mais j'y passais beaucoup de temps chez mes grands-parents, là, dans ce qui s'appelait à l'époque les Basses Alpes, les Alpes de Haute-Provence.
Ces deux petites filles dans une ferme qui interagissent avec le monde, y compris le monde animal qui les entoure.
C'est ça, et avec des parents pas super relax, et puis la méchante tante Mélisa, chez qui elles sont obligées d'aller. Alors, je n'avais pas de tante Mélissa chez moi, mais il y avait un peu une dureté, des fois, de l'éducation qui me... Voilà, ça fait des petits clins d'œil. Et puis, une vie un peu d'enfance. On était laissés tranquilles toute la journée à jouer dans les champs, dans les ruisseaux. Et puis, on nous appelait le soir et ça suffisait bien comme ça.
Vos parents élevaient, en plus de leur métier par ailleurs, donc on a dit votre père était charpentier, ils élevaient des animaux?
Non, pas du tout. Okay. C'était vraiment la période d'été où j'allais chez mes grands-parents.
Okay.
Il y avait une ancienne maison qui était près d'une ferme. Il y avait effectivement une fermière qui était à moitié pas très sympathique. Mais on allait toujours aller voir les lapins et les vaches chez elle. Et puis, on avait toujours un peu... Voilà, il y avait un côté un peu inquiétant de cette vie de grande liberté et puis quand même un petit peu de danger parfois.
Alors, vous avez choisi de nous lire un extrait du roman La Vouivre. Peut-être il faut commencer par dire en deux mots de quoi il s'agit et puis comment vous êtes tombé sur ce livre-là.
Alors, La Vouivre, bon, donc c'est plus tellement pour les enfants, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est que Marcel Aimé raconte comment apparaît ce personnage mythologique du Jura. Et ce qui me plaît dans ce livre, c'est que La Vouivre, c'est un personnage de femme, immortelle, qui traîne beaucoup dans les lacs et les marais, toujours accompagnée de serpents, et elle porte un beau rubis sur la tête que tout le monde a envie de lui voler, puisque c'est très précieux. Mais dès qu'on essaye de s'emparer du rubis, les serpents attaquent le voleur, et en général, ça termine mal. Et ce qui est amusant dans ce livre de Marcel Aimé, c'est que La Vouivre apparaît au début du siècle, dans un monde de de paysans, d'agriculteurs, et certains vont s'éprendre de ce personnage. Mais elle apparaît pas du tout de façon merveilleuse. Elle est là comme vous et moi. Elle se balade avec son rubis sur la tête. Tout est très normal. Et il n'y a pas de magie, il n'y a pas de merveilleux, à part quelques petits détails. Et ça provoque un effet assez comique, en fait. Le curé de la paroisse et le maire se disputent pour savoir ce qu'il faut faire de cette apparition, etc. Donc, j'aime bien le côté magique, mais dans la normalité. Voilà, c'est vraiment le merveilleux qui s'invite dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est très, très chouette.
Comme d'ailleurs dans un autre roman, dans une autre histoire fameuse de Marcel Aimé qui s'appelle Le Passe-Muraille. Mais on vous écoute lire un extrait de La Vouivre.
Sur l'étang, la vouivre avait rebroussé chemin et nageait la grande brasse, mais en enfonçant ses mains dans l'eau avec un bruit de claque, sec et sonore, et sans faire jaillir une goutte d'eau. À quelques cent mètres du bord, elle cessa de nager, et se retournant sur le dos, les mains jointes sous la nuque, les seins pointant hors de l'eau, se laissa flotter sur l'étang. Peut-être voulait-elle donner au garçon le temps de courir sa chance. Il pensa aussi que la présence d'un homme pouvait la contrarier. Comme il balançait à se retirer, elle se remit à nager et prit pied avant qu'il se fût décidé. Leurs regards s'étant rencontrés, il baissa les yeux et se sentit gêné d'être là, debout sur le bord, dans une attitude qui devait paraître délibérément indiscrète, mais il ne put se résoudre à vider les lieux et prit le parti de s'allonger, à trois pas de la robe, dans une position qu'il estima plus effacée. La vouivre jaillit tout entière dans le soleil. S'était arrêtée devant l'embouchure du ruisseau qui avait déposé à cet endroit un lit de menu gravier. Ses pieds jouaient dans l'eau vive et, d'une détente brusque, effleurant la surface à contre-courant, faisait bondir des gouttes limpides qui venaient rouler sur ses jambes. Arsène, étonné par la splendeur de son corps, n'éprouvait aucune gêne à le contempler. Il y voyait ce qu'il n'avait guère soupçonné jusqu'alors dans la créature humaine et qu'il savait pourtant admirer chez un beau cheval. Une noblesse, une harmonieuse liberté et une économie des lignes qui lui procuraient une sensation d'allègement. Elle s'allongea dans le courant pour laver son corps de l'eau froide de l'étang et s'étant ensuite aspergé le visage à deux mains, elle prit pied sur le rivage. Là, sous le regard de l'homme qui était couché dans son ombre et sans plus faire attention à lui que s'il eût été un animal, elle se mit à tourner lentement dans le soleil, les mains à la nuque et les yeux clos. Cette indifférence injurieuse fit lever en lui une colère de mâle et il s'efforça d'être grossier, ce qui lui arrivait rarement. « Détourne tes fesses de là, » dit-il, « tu me prends mon soleil. »
On est au tout début du roman Rebecca d'Outremer et c'est la première fois que Arsène, qui est le personnage principal du livre, voit la vouivre dans cette eau. La vouivre qui est nue à ce moment-là, c'est une scène d'une très grande sensualité aussi.
Oui, oui, il y a de l'érotisme très, très sage, enfin pas tant que ça, ça finit comme on imagine, mais... oui, oui, il y a une vraie sensualité, mais qui n'a rien, encore une fois, de magique. Et ce personnage-là, bon, il faut le lire, mais est très intéressée par le sujet, toute immortelle qu'elle est. Voilà, elle a envie de séduire cet homme et puis un tas d'autres, enfin.
Oui, rien que dans ce passage-là, même moi, j'ai pas lu La Vouivre. J'ai très envie de le lire maintenant que je vous ai entendu en lire cet extrait. Mais même sans avoir lu le roman, on entend, enfin, je trouve qu'on imagine, on devine un personnage féminin d'une très grande force. Il y a quelque chose d'une forme d'empouvoirement féminin, je trouve, qui s'entend là. Alors même que, bon, c'est un homme qui regarde une femme, un homme qui regarde une femme nue se baigner. On peut imaginer que, voilà, on est dans un regard concupiscent masculin. Et là, je trouve que c'est autre chose qui se dégage de cette scène-là.
Alors là, bon, ce livre a été écrit, je n'ai pas l'année en tête.
Il est paru en 1943.
C'est ça. Donc évidemment, le regard sur les choses était différent. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, le rapport entre les deux n'est pas comme, tout à fait comme on pourrait l'imaginer. Il y a un respect pour cette femme qui a un caractère, comme vous dites, très fort, très libre. Mais rien ne l'atteint. Elle est libre de ses allées et venues. Elle peut se balader à poil devant tout le monde. Et elle perturbe beaucoup de gens parce qu'elle existe. Et elle remet en question les croyances face, voilà, encore une fois, du curé qui voit bien que ça va dépasser ce en quoi il croit, du maire qui, lui, est complètement anti-bouffe-curé et qui comprend pas que quelque chose de merveilleux apparaisse, et ça remet en question leur bataille entre ces deux personnages. Et c'est très drôle, ce livre est drôle. Donc il y a tout ça, et c'est merveilleux, rigolo en même temps, et très riche. Oui.
Je vous propose qu'on inverse un peu les choses pour l'auteur et l'extrait du livre suivant que vous avez choisi de nous lire. Je vous propose que vous nous lisiez, sans que je dise, sans que vous disiez avant, de quoi il s'agit. Je trouve qu'il est suffisamment parlant par lui-même, si vous voulez bien. Et on expliquera ensuite, après l'avoir entendu, de quoi il s'agit. Vous êtes d'accord avec ça ?
J'essaie.
La canne truquée. Pour se venger, compère Gredin inventa un tour particulièrement diabolique. Une nuit, alors que son épouse dormait, il se glissa hors de la chambre, prit la canne de la vieille et courut dans la remise. Là, il colla au bout de la canne une petite rondelle de bois pas plus épaisse qu'une pièce de 1 franc. La canne était un tout petit peu plus longue, mais si peu que le lendemain, Commère Gredin n'y vit que du feu. La nuit suivante, Compère Gredin s'enferma de nouveau dans sa remise et continua sa sinistre besogne. Et ainsi de suite, chaque nuit, il collait une rondelle en s'appliquant pour que la vieille ne s'aperçoive de rien. Jour après jour, la canne s'allongeait, mais si discrètement, comment l'aurait-on remarqué ? Vous, par exemple, vous grandissez chaque jour, mais si lentement qu'en une semaine, vous ne vous en rendez pas compte. C'était ce qui se passait avec la canne. Commère Gredin n'avait rien remarqué, alors qu'elle lui arrivait déjà à l'épaule. « Ta canne est trop longue !» annonça un jour Compère Gredin. « Trop longue !» répéta Commère Gredin. « Ah, mais c'est ça! Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais je ne savais pas quoi !»« Ben oui, bizarre, en effet !» dit Compère Gredin en se retenant pour ne pas rire. « Elle a poussé !» s'écria Commère Gredin en regardant attentivement sa vieille canne. « Mais ne dis pas de bêtises !» grommela Compère Gredin. « Une canne ne pousse pas comme un arbuste. Elle est en bois mort. Tu as déjà vu du bois mort pousser ?»« Mais alors qu'est-il arrivé par tous les diables ?» vociféra Commère Gredin. « Ce n'est pas ta canne qui est bizarre, c'est toi !» ricana Compère Gredin. « Tu rapetisses ! Je l'avais remarqué depuis quelque temps !»« Mais je ne te crois pas !» cria Commère Gredin. « Tu te ratatines, ma vieille !» affirma Compère Gredin. « Regarde donc ta canne, vieille bique, et tu verras bien que tu as rapetissé. Tu as attrapé la ratatinette, l'épouvantable ratatinette !» Commère Gredin tremblait tellement qu'elle s'écroula sur sa chaise.
Je ne sais pas si nos auditeurs et nos auditrices, et peut-être les plus jeunes d'entre eux, auront reconnu cet extrait des Deux Gredins de Roald Dahl, The Twits en anglais, publié pour la première fois dans sa version originale anglaise en 1980 à Londres, illustré par Quentin Blake, bien sûr, Sir Quentin Blake, et traduit en français savoureusement par Marie Raymond Farré, publié pour la première fois chez Gallimard en 1997 et disponible dans la collection Folio Junior notamment. C'est Marie-Raymond Farré à qui l'on doit cette jolie trouvaille de la ratatinette. Pourquoi les Deux Gredins, Rebecca D'Autremer ?
Je me rends compte en vous écoutant que j'ai sans doute pas entendu ces histoires quand j'étais enfant, parce qu'elles n'existaient pas. Mais ce sont des histoires que j'ai lues et écoutées beaucoup avec mes enfants à moi. Là, pour le coup, c'était du livre enregistré et je crois que c'était lu par Roger Carrel.
Ah oui,
si
je
me trompe pas, possible, avec ouais. Une voix et une lecture.
Roger Carrel, qui est connu pour ses lectures, mais aussi qui était un très grand doubleur pour le cinéma.
C'est ça. Et donc, c'était délicieux de l'entendre lire ça. Il y avait aussi La potion magique de Georges Bouillon, par exemple. J'ai hésité entre les deux. Donc voilà, je pense que les enfants comme les parents peuvent partager ces lectures-là, parce que c'est vraiment délicieux pour tout le monde. C'est très drôle, c'est très bien écrit, c'est plein de malice, et puis c'est un peu méchant, donc ça fait du bien. C'est ça que j'aimais aussi dans ce choix.
En vous écoutant lire ce texte, très joliment lire et incarner ce texte, Rebecca D'Autremer, je me disais qu'en effet, c'était un exemple assez parfait de texte qui se destine vraiment à tout le monde. C'est-à-dire que selon son âge, on peut y piocher voilà, ce qu'on veut, ce qu'on a envie d'y trouver. Je trouve qu'un adulte qui écoute ça, qui lit ça, peut tout à fait y voir une satire absolument formidable de ce qu'est la conjugalité.
Oui, vous pouvez faire ça, ou simplement prendre plaisir à voir ces gens aussi méchants se jouer des tours épouvantables. Mais c'est ce en quoi je crois aussi qu'on a tout intérêt, nous qui sommes des auteurs de livres pour les enfants, de prétendre, moi j'essaye de prétendre à ça, de faire des livres pour la famille, des livres qui se partagent entre petits et grands, et de ne pas poser cette limite, ça c'est pour les enfants, ça c'est pour les grands, non on ne peut pas partager. Non, chacun peut prendre ce qu'il peut et ce qu'il veut dans un livre, et il me semble que c'est plus intéressant, pour moi en tout cas, c'est plus intéressant de travailler dans cette optique-là, quoi.
Roald Dahl, qui est davantage sans doute connu aujourd'hui pour, bien sûr, ses histoires pour enfants, mais qui a été aussi un très grand novelliste d'histoires pour adultes, d'histoires assez choquantes,
il y a des trucs très trash,
sanglantes, qui sont très savoureuses aussi. Est-ce que vous avez envie, peut-être à un moment de votre parcours d'autrice, de vous lancer dans un récit qui serait cette fois plus spécifiquement pour adultes, comme on dit?
À dire vrai, c'est ce que je fais en ce moment,
puisque
je travaille sur un projet de roman graphique qui s'adresse là, franchement, pas vraiment aux plus petits. Alors, c'est du roman graphique, donc de la bande dessinée, du livre illustré. Mais voilà, j'ai changé de cible. Mais ça ne change pas grand-chose dans mon travail.
Ce que j'allais vous demander, qu'est-ce que ça change ?
Non, pas grand-chose. Évidemment, il y a des... Peut-être quand on s'adresse à l'enfance... Je me demande si quand on s'adresse à l'enfance, on n'est pas plus libre, finalement, de fantaisie, d'un tas de choses, d'une narration plus libre. Et aux adultes, on se sent plus jugé, a priori, plus jugé. Mais sinon, dans la réalisation des images, le rapport entre le texte et l'image, non, très franchement, moi, ça ne change rien.
Et très concrètement, vous disiez, quand vous écrivez des histoires pour enfants, vous avez l'espoir que ça s'adresse à tout le monde et que les adultes aient autant de plaisir à les lire, à les partager, en tout cas avec les enfants. Ça implique quoi, du coup, concrètement, pour vous, cette attention-là ? Est-ce que c'est de créer des récits qui soient suffisamment riches pour pouvoir attraper tout le monde ? Ou est-ce que c'est quelque chose dans la langue même, dans la composition des images ?
Alors, bon, moi j'ai fait des choix, notamment dans la série des livres sur Jacobinus Gainsborough dont vous parliez au début. Par rapport à la langue, j'ai fait le choix, je ne suis pas la seule à le faire, mais de ne pas minimiser ou simplifier la langue française en m'adressant aux enfants. D'ailleurs, je le dis dans les préfaces de mes albums, je dis aux enfants, et il y aura certes peut-être des mots que tu ne comprends pas, mais ce n'est pas grave du tout. D'abord, tu vas les apprendre, et puis si tu ne comprends pas, tu demandes. Donc j'assume cette langue un peu riche, il y a de l'imparfait du subjonctif, et j'ai choisi que ça ne devait pas poser de problème. L'important, c'est que les enfants puissent avoir accès à différents livres et des fois peut-être des langages plus simples pour qu'ils se reposent, et puis d'autres qui leur semblera plus curieux, mais qui vont les enrichir autrement. Et après, je me dis, par exemple, dans les Jacobinus, qu'un enfant plus jeune, s'il est un peu plus... le langage lui paraît un peu trop mystérieux, je vais le servir en image, avec beaucoup de choses à observer dans l'image, et en essayant de mettre beaucoup d'éléments qu'il puisse comprendre par lui-même, simplement en observant ce qui se passe dans l'image. Et je fais aussi le choix de ne pas simplifier mes dessins pour les enfants. Alors là, je n'ai pas la preuve, mais je me dis que les enfants, ils voient la même chose que nous. Ils ne les comprennent pas de la même façon, mais je ne vois pas en quoi un enfant de 5 ans verrait moins de détails qu'un adulte. Donc je ne me prive pas de mettre des choses, des subtilités. Au contraire, les enfants, ils adorent fouiller les images et comprendre par eux-mêmes. Et c'est dans la recherche de cette compréhension qu'ils pourront instaurer le dialogue avec l'adulte qui aura compris des choses dans le texte, peut-être.
Oui, au contraire, on peut même se dire que les enfants ont moins peur que nous de s'absorber dans la contemplation des images, moins peur, ou en tout cas... ils ne freinent pas devant ce temps-là d'absorption et de pure contemplation. On parle de Roald Dahl, j'ai mentionné, les histoires de Roald Dahl, elles sont aussi connues pour avoir été illustrées par Quentin Blake, toujours en vie à l'heure où nous où parlons. Est-ce que ça a compté pour vous dans votre appréciation des histoires de Roald Dahl, ces merveilleux dessins et ces merveilleuses aquarelles de Quentin Blake ?
Alors évidemment, c'est un illustrateur magnifique que j'admire beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer une fois à Londres. Et voilà, on s'était serré la main, ça s'est arrêté là. Mais
ah, dommage, on aurait voulu plus.
Non, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Mais oui, je connais ses dessins depuis toujours et je l'admire d'autant plus qu'il pratique un dessin très libre, très spontané. Enfin, attention, et je suis persuadée qu'il y a, comment dire, beaucoup de travail et de pratique derrière, mais le dessin est jeté, il n'est pas laborieux, il n'est pas exactement le contraire de ce que je fais, moi, où je suis très dans la maîtrise du geste, etc. Donc j'admire d'autant plus que je ne sais pas du tout faire ce genre de choses.
Dans le texte que vous nous avez lu, il y a aussi quelque chose qui m'a frappée en l'écoutant, c'est cette adresse très directe au lecteur. Vous, par exemple, vous grandissez chaque jour, mais si lentement qu'en une semaine, vous ne vous en rendez pas compte. C'est quelque chose que vous faites aussi dans vos albums pour enfants, dans la série des Jacominus Gainsborough, dans le tout premier album en particulier. Ça commence par une très jolie adresse au lecteur. Qu'est-ce que ça a comme vertu pour vous, l'adresse directe ?
Alors c'est vrai que je n'avais pas réalisé ça, mais oui, j'avais pris le parti dans cette série de travailler une préface, comme au spectacle un peu, pour présenter le spectacle et faire le monsieur loyal et dire « bon allez, maintenant, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qui va se passer, détendez-vous, tout va bien se passer ». Mais là, dans la bande dessinée que je suis en train de faire, je vais aussi travailler une préface dans ce sens pour m'adresser aux lecteurs adultes. Je trouve ça chouette de dire « bienvenue chez moi en fait, bienvenue dans mon travail et voilà ».
On va écouter une autrice dont vous avez aussi voulu qu'on évoque son travail, Rebecca D'Autremer, c'est Camille Jourdi. Je vous propose qu'on l'écoute d'abord dans cette archive de 2024. Elle parlait de sa manière de travailler ses personnages notamment.
J'ai quand même un langage qui est vraiment lié à l'image et mes idées, elles viennent avec l'image. C'est-à-dire que j'écris, je note des choses, mais très vite mes personnages, ils existent. J'ai besoin de les faire exister en les dessinant. Je crois que ils prennent vie avec les dessins, c'est-à-dire que c'est en les faisant bouger qu'ils deviennent eux-mêmes. Et pour moi, c'est très important que les personnages existent et qu'ils aient une âme. D'un personnage à l'autre, je ne vais pas les faire jouer pareil. C'est un petit peu comme si c'était des petits acteurs de papier qui naissent petit à petit. Il faut que je prenne le temps. Au début, ils se ressemblent un peu tous. Et puis, ce que je leur fais dire, c'est... Ça fait un peu flop, quoi. C'est-à-dire que j'ai tendance à expliquer un peu mon propos. Et puis, arrive un moment où ben, je les dessine. Et puis, je pose beaucoup pour jouer les rôles des personnages. Comme ça, la position est plus juste. Ça m'aide au niveau du dessin, en fait. Hein. Et mon compagnon, voilà, il fait tous les rôles masculins, moi, tous les rôles féminins. Mais ce qui fait qu'au bout d'un moment, je les dessine pas pareil. Tel personnage, il va pas avoir la même attitude physiquement qu'un autre. Ce qui fait que j'arrive à faire passer aussi des choses par le dessin, oui, mais pas seulement dans le scénario.
L'autrice et dessinatrice de bande dessinée Camille Jourdi au micro de Marie Richeux, c'était dans le Book Club en juin 2024 à propos de sa manière de donner vie à ses personnages en les dessinant. Elle était venue ici même dans cette émission parler de Juliette, les fantômes reviennent au printemps, qui est justement la BD que vous avez choisi d'évoquer aujourd'hui, Rebecca D'Autremer. C'était le moment où sortait en salle l'adaptation que Blandine Lenoir a tirée pour le cinéma de cette bande dessinée. Un petit mot d'abord avant de parler de cette bande dessinée-là en particulier, sur ce que vient de dire Camille Jourdi, est-ce que ça vous parle, l'idée de trouver les personnages en les dessinant ?
Alors, je suis en plein dedans, en plein questionnement là-dessus, puisque je travaille moi-même donc ce projet de bande dessinée. Alors, c'est très particulier. Hein. La bande dessinée, c'est un autre genre de livre où on raconte des choses par l'image. C'est nouveau pour moi, hein, donc je ne peux pas en parler avec beaucoup, beaucoup de recul. Mais ce que j'aime, en tout cas, dans le travail de Camille Jourdi, c'est que, voilà, on doit comprendre en lisant l'image. Je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit, mais les personnages jouent et on va comprendre leurs sentiments, non pas par la description qu'en fait l'auteur, mais parce qu'ils ont telle attitude, tel positionnement dans l'espace, tel rapport les uns avec les autres. Et c'est ça qui est passionnant quand on est dessinateur à mettre en place. C'est vraiment comme de la mise en scène au théâtre, je trouve, ou sans doute au cinéma.
Mais, on lit les corps.
C'est ça, on lit l'image et c'est un autre code de compréhension, un autre code d'expression et de partage d'une histoire. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre quand on donne un livre aux enfants. L'image n'est pas là que pour décorer ou pour faciliter la lecture, mais elle peut être aussi là pour faire comprendre des choses. Et c'est comme ça que ça devient intéressant.
Vous avez choisi de nous lire une scène d'une bande dessinée qui s'appelle donc Juliette, les fantômes reviennent au printemps, qui était parue chez Actes Sud en 2016. C'est l'histoire d'une jeune femme qui revient chez son père et qui, à l'occasion de ce séjour chez son père, va aussi être en contact avec notamment le personnage de sa sœur, qui vit à ce moment-là une histoire extra-conjugale assez exaltante. Un petit mot juste pour nous présenter la scène que vous allez nous lire ?
Alors j'ai fait exprès, parce que j'aime m'amuser, mais j'espère que je vais y arriver, à choisir une double page où il n'y a quasiment pas de texte. en me remémorant aussi, notamment, comme on disait au début, ma grand-mère qui me décrivait ce qu'elle voyait en me disant oh, « Tiens, tu vois, là, le loup est en train de partir dans la forêt. » Je trouvais que c'était très drôle. Mais bon, l'exercice est un peu particulier. Donc, en tout cas, pas du tout radiophonique. Mais je vais essayer de m'en sortir.
C'est ce qu'on va voir.
J'ai donc une double page devant moi. Deux bandes dessinées, c'est-à-dire qu'il y a des cases. Les dessins sont réalisés à la plume, je dirais. J'espère que Camille ne m'en voudra pas si je me trompe. Et avec de l'encre ou peut-être de l'aquarelle. En tout cas, c'est assez éthéré, des couleurs pastel assez douces et une lumière très douce. Donc nous sommes plutôt dans une ambiance de vert et de bleu pâle. Petite pointe de rouge en point coraux. Première case, vue sur des plantes vertes. Je ne saurais pas dire si ce n'est pas un ficus et un yucca peut-être. Et un arrosoir arrose une des plantes. On dézoome, nous voyons une dame en train d'arroser ses plantes dans une serre. À l'extérieur de la serre, nous sommes dans un jardin. Il y a un buisson d'où dépassent deux petites oreilles grises et roses qui semblent être celles d'un loup. On voit dans la case suivante, ce n'est pas un loup, c'est un monsieur déguisé en loup et qui fait « Aou, aou !» La dame se retourne, petit point d'interrogation dans le blanc au-dessus de sa tête, mais non, elle ne l'a pas vu, et elle retourne à son arrosage. Le loup arrive, à pas de loup, dans la serre. Il arrive dans le dos de la dame, lui pose les mains sur les épaules pour la faire sursauter. « Ouh ! Ah !» fait la dame. « Grrr !» fait le loup. « Oh, mais t'es con !» dit la dame en se retournant. Le monsieur enlève son masque de loup, et la dame dit « Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'avais dit de ne pas venir aujourd'hui. » « En plus, j'ai mes règles, » dit-elle, alors que le monsieur l'enlace. « Tu crois vraiment que c'est le genre de chose qui effraie un loup-garou ?» lui répond le monsieur. Il s'embrasse. La dame essaye de déshabiller le monsieur. « Mais comment ça s'enlève, ce truc ?» Et elle aussi se déshabille. « Dis, tu crois que je dois m'inquiéter d'être excitée parce que tu viens en loup ? Oh, moi aussi, ça m'excite !» Les voilà tout nus tous les deux. Le monsieur prend dans la poche de son déguisement un petit objet et le tend à la dame qui est en train de jeter sa culotte dans les airs. « Tiens, voilà pour toi !» Le monsieur a dans sa main une petite bouteille de parfum à l'abricot et lui dit « Comme ça, tu ne pourras plus dire que tu sens le produit vaisselle. »
Alors là, Rebecca d'Outremer, je dois vous tirer mon chapeau. Je ne sais pas comment vous avez fait pour décrire de manière aussi précise et ça vivante en improvisant ces deux planches plus une case de Juliette, les fantômes reviennent au printemps de Camille Jourdi. C'est toujours une gageure à la radio de faire vivre les images. Et là, vous nous avez donné un exemple assez magistral, je dois dire.
C'est
de
vrai,
comment ça peut se faire. Bravo, vous pouvez être tout à fait rassurée. Qu'est-ce qui vous séduit en particulier dans cette scène?
Bon, dans la scène, c'est j'avoue, là, dans les albums de Camille en général, ça me plaît beaucoup, cette sensibilité, ces petits détails du geste, ces personnages qui se retournent, qui jettent un regard, qui s'échangent. Mmh. Tout est petit, tout est fin. Et on arrive à retrouver, comme elle disait, la vie, le caractère des personnages. Et c'est très intime, c'est très peu bavard souvent. Et il me semble, de ma toute petite expérience de bande dessinée, que moins il y a de texte, mieux c'est. Donc voilà, c'est une référence que je trouve très intéressante. Il y a les BD de Chris Ware aussi où il y a très peu de texte et voilà des petits gestes comme ça, très lents, où on prend le temps d'observer les acteurs jouer. Voilà.
C'est très savoureux, en effet. Je recommande aussi, bon, il y a toutes les bandes dessinées de Camille Jourdi sont formidables, mais je recommande pour les enfants la merveilleuse bande dessinée qui s'appelle Pépin et Olivia et les Vermeils, bien évidemment, absolument. Je vois l'horloge tourner, Rebecca d'Outremer. J'aurais envie de vous demander des tas d'autres choses sur votre découverte de la bande dessinée, mais je ne voudrais pas que nous n'ayons pas le temps d'évoquer votre dernier choix d'une nature très originale. C'est la première fois, je crois, qu'un invité a choisi ce type d'ouvrage pour l'une de nos émissions. Il était temps, car ce sont des ouvrages merveilleux. Vous avez choisi de nous lire un extrait du Becherel italien. Becherel, cette collection bien connue de livres de grammaire qui existe en français, auquel on peut se rapporter quand on hésite sur une conjugaison notamment, mais aussi pour les langues étrangères. Becherel de l'italien, publié par les éditions Hatier et signé en l'occurrence Georges Ulysse et Caroline Zécry. Pourquoi ce choix, Rebecca d'Outremer?
Parce que je voulais pas faire semblant de lire Proust toute la journée. quand vous m'avez demandé de donner les livres de ma bibliothèque, et qu'il y a réellement en ce moment sur ma table de chevet les Becherel, grammaire, verbe et je ne sais plus orthographe de l'italien. J'aime beaucoup apprendre des langues étrangères. Alors attention, je ne vous fais pas croire que je suis polyglotte merveilleuse.
Vous nous avez dit que, tout à l'heure que vous lisiez l'anglais quand même.
Oui, mais je l'écoute en tout cas. Mais comme j'ai du temps d'écoute quand je travaille, oui, j'en profite pour écouter des choses. Voilà, mais l'italien, c'est quand même moins difficile que le russe.
Mais vous en êtes où de votre apprentissage de l'italien?
Je me débrouille. Vous êtes
capable de tenir une conversation?
Oui. C'est pas vraiment une langue étrangère, l'italien. Mais je suis souvent amenée à me déplacer beaucoup en Italie ou en Espagne et à donner des cours. Et c'est quand même plus facile, même en parlant très mal, de communiquer directement dans la langue. Donc oui, en ce moment, je suis à fond sur l'italien.
Et donc, vous êtes à fond sur les verbes, en particulier, auxquels est consacré ce volume du Becherel. On vous écoute lire une page extraite de ce manuel.
L'infinitif présent, l'infinito presente. Il indique d'une manière indéfinie l'action exprimée par le verbe sans indication de personne ou de nombre. Ces terminaisons marquent le groupe d'appartenance du verbe « are, erre, irre ». Il n'a aucune notation temporelle. Amare, temere, sentire. L'infinitif présent a différentes valeurs. Tout d'abord, la valeur nominale, lorsqu'il remplit toutes les fonctions d'un substantif. Leggere troppo fa male agli occhi. Lire trop abîme les yeux. Lavorare stanca. Le travail fatigue. Remarque, comme un substantif, il peut être précédé d'un déterminant, article, adjectif possessif ou démonstratif. Il troppo bere rovina la salute. Boire trop nuit à la santé. Parlons de la valeur modale, lorsqu'il indique la modalité d'une action, un ordre ou un conseil. Agitare prima dell'uso. Agiter avant usage. Aprire lentamente la porta. Ouvrir lentement la porte. Une interdiction. Non fumare. Ne pas fumer. Un doute, une inquiétude. Che fare, che dire. Que faire, que dire. L'indignation, la surprise. Dirmi una cosa simile a me. Me dire une chose pareille à moi. Ou un regret. Pensare che ero così felice. Et dire que j'étais si heureux.
Où l'on découvre en vous écoutant Rebecca d'Autremer qu'il y a une poésie propre au livre de grammaire.
C'est ça qui me plaît. Il y a toujours un grand contraste entre la rigueur des règles qui m'ont fait tellement souffrir à l'école et auxquelles je comprends que on prenait rien. Et puis il y a toujours la petite poésie qui arrive dans les phrases en exemple. Et j'ai redécouvert en comprenant un peu mieux les grammaires de langue latine, notamment ce que c'était que la grammaire française. Tout s'est éclairé.
On entend aussi que probablement les auteurs de ce Becherel se sont amusés à le rédiger. Le choix des exemples, la manière même dont les règles sont expliquées. Il y a peut-être une petite malice aussi au coin de leur œil quand ils écrivent tout ça.
Mais c'est pas impossible de jouer avec les mots, quoi qu'on raconte. Quand on entend des acteurs qui seraient capables de lire le bottin, si ça existait encore, et qu'on les écouterait avec plaisir, il y a la saveur des mots de toute façon, toujours.
On entend aussi votre plaisir à interpréter tout ça. Vous l'avez mentionné rapidement tout à l'heure, vous donnez régulièrement un spectacle qui raconte qu'est-ce que c'est que d'être un auteur, en particulier un auteur, une autrice pour la jeunesse, qui s'appelle la conférence Ébouriffée. C'est quelque chose qui est important dans votre pratique, ce spectacle-là?
Alors c'est vrai que c'est un spectacle qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps et j'ai renouvelé l'expérience avec le passage sur scène de Une chose formidable qui est un des livres de Jacominus et qu'on joue d'ailleurs à Sèvres le 13 mars prochain au Théâtre Le Sel et où je suis conteuse et voilà, c'est un autre travail. J'aime beaucoup et en même temps c'est une tension qui me pèse un peu, donc voilà, mais c'est un vrai plaisir de lire les textes en public.
You will shine. Un très très grand merci Rebecca Dotremer d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir ouvert les portes de votre bibliothèque. Les albums, vos albums mettant en scène les aventures de Jacominus Gainsborough ont tous paru aux éditions Sarbacane, et notamment Une chose formidable qui s'accompagne d'une très jolie version audio, et puis Jacomimi aussi tout récemment. On mettra les références sur le site internet de l'émission. On conseille aussi d'aller se plonger dans Des souris et des hommes illustrés par vous aux éditions. Tichina, vous continuez de donner votre conférence ébouriffée dont on a parlé et le spectacle autour d'Une chose formidable de la même manière. On mettra toutes les dates de la tournée de ces spectacles sur le site internet de l'émission. Aujourd'hui à la réalisation, c'était Louise André, à la technique Ludovic Auger. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, tout particulièrement aujourd'hui à Lou Kevauvillier, mais aussi à Marianne Chasseur, Léa Weissgruss, Jeanne Aléos, Julie Gastal et Alexandre Alaï Begovic qui poursuit la conversation avec vous sur le compte Instagram de l'émission. Shine out your pain.